Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter du roman autobiographique Là où je me terre, écrit par Caroline Dawson et publié aux éditions du Remue-Ménage en avril 2021. Fuyant le régime autoritaire de Pinochet au Chili, sa famille immigre au Québec en décembre 1986. Dans son premier livre, l'autrice raconte le parcours de sa famille qui tente, tant bien que mal, de s'intégrer à un nouveau milieu. Vous écoutez le balado Forêt Blanche. J'ai avec moi aujourd'hui Olivier Hamel et Juliette Chevalier. Bonjour à vous deux.
Bonjour, Étienne.
Bonjour.
Nous avons lu ensemble « Là où je me terre » de Caroline Dawson, un roman autobiographique, ma foi, très touchant, très excellent. Nous allons en parler. C'est un roman autobiographique parce qu'elle raconte l'histoire de l'autrice Caroline Dawson qui quitte le Chili. Elle a alors 7 ans. Et sa famille et elle fuient la dictature de Pinochet pour se réfugier au Québec. Sa mère, Natalia, et son père, Alfredo, ont 3 enfants. Le grand frère de 14 ans, Jim, le petit frère, Nicolas, 4 ans, et Caroline Dawson, 7 ans. Ils vont d'abord être dans un hôtel au Québec et tranquillement, ils vont s'acclimater à cette nouvelle culture, une nouvelle culture qui vient, bien sûr, avec une nouvelle langue, le français. Ils vont être accueillis ensuite par une famille chilienne dans le quartier antique. Les parents vont faire beaucoup de sacrifices pour leurs enfants. Dans leur pays, ils travaillaient en éducation. Et donc, ils étaient vraiment dans la communication, dans l'éducation. Et au Québec, ils se retrouvent à nettoyer des banques, des maisons privées. Et c'est vraiment tout un décalage, tout un choc pour toute la famille, évidemment. C'est une histoire de déracinement, vraiment, où Caroline Dawson va être arrachée à sa culture et va retrouver son identité à travers une autre culture, c'est-à-dire qu'elle va se bâtir à travers ça. Comment est-ce que la Caroline Dawson, enfant, va réagir à ce déracinement-là, Juliette?
C'est quelque chose qu'elle va prendre de manière très difficile, bien entendu. Comme tu as dit, c'est un déracinement. Elle a été arrachée complètement de sa vie d'avant, de tout ce que ça représentait aussi pour elle. Et il y a comme un moment de transition où est-ce qu'elle est dans l'avion, bien entendu, qui est comme un moment aussi difficile à lire, où est-ce que ses parents essayent de rendre cette transition-là plus douce en lui faisant quand même un Noël dans l'avion. Et puis, moi, ce déracinement-là, je trouve qu'on l'observe encore mieux quand elle arrive au Québec. À Montréal et qu'elle doit apprendre justement à s'enraciner. Donc ça veut dire qu'elle doit complètement substituer sa personnalité de la Caroline du Chili à une Caroline québécoise. Donc c'est vraiment ça qui se passe. Elle doit se polir, elle doit apprendre à devenir une Caroline qui ne grimpera plus dans les arbres et qui est en fait presque en tout aspect une petite Julie, mais qui ne pourra jamais l'être non plus. Donc, c'est vraiment ça, ce récit-là. C'est un récit de elle qui essaie de devenir québécoise alors qu'elle ne pourra jamais vraiment l'être non plus, tout en, justement, s'effaçant constamment.
En parlant d'identité québécoise, tu me disais hors micro, Olivier, que c'est un livre qui est éminemment québécois. Puis justement, ça représente, c'est le livre qui représentait le Québec au Combat national des livres 2021 pour le Québec, diffusé sur les ondes de « Plus on est de fou, plus on lit ». Pourquoi, d'après toi, c'est un livre qui est québécois, qui représente bien le Québec, Olivier?
Bien, selon moi, ça passe d'abord par la langue qui est utilisée pour raconter l'histoire. Non seulement est-ce un roman écrit en français, mais c'est un roman qui va employer de nombreux québécistes, mais pas des québécistes qui vont être placés, plaqués dans le texte, comme pour crier « Regardez-moi, j'écris un livre québécois, je parle le québécois, j'utilise les mêmes mots que vous. » Non, bien au contraire, la langue québécoise, on la sent. On la sent dans des passages qui passent du très littéraire à justement très québécois. Et elle va aussi aborder des thèmes comme l'hiver. Donc, on parlait d'enracinement. Elle doit se réenraciner au Québec. Et une fois quitté le Chili, c'est difficile, c'est un défi, parce que le sol ici, c'est l'hiver, le sol est gelé, et planter ses racines dans un sol gelé, c'est difficile. À ma lecture, au début, je réfléchissais à ce que je pourrais dire pendant le balado, et je me disais, ah, peut-être est-ce un roman de la revendication de l'identité québécoise. Mais bien vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas, parce qu'il n'y a pas de revendication. En fait, c'est plus, je dirais que c'est davantage une déclaration, un état de fait qu'on présente. Donc, on n'essaie pas de s'attirer l'approbation des Québécois, donc de se faire accepter par les autres. On fait juste se présenter dans les lignes comme étant québécoise. Et je trouve que, d'ailleurs, Caroline Dawson le disait dans une autre entrevue, elle est devenue québécoise, tout simplement. Donc, il n'y a pas de revendication à avoir, en fait. Comme je dis, c'est vraiment une affirmation d'une identité québécoise qui était acquise malgré le fait d'être née dans un autre pays au départ.
Je suis vraiment d'accord avec toi, en fait, Olivier, que c'est un état de fait, dans le fond, qu'on s'en rend compte. Puis on s'en rend compte aussi, là, tu parlais de la langue, donc ça me ramène à quelque chose dont je voulais parler aussi. Le début, bien entendu, se passe au Chili. Et on voit quand même que, malgré le fait que ça se passe au Chili et que l'enfant de 4 ans qu'elle était ne connaissait pas du tout la culture québécoise, on voit encore des expressions tellement québécoises, puis ça n'a pas l'air non plus d'être quelque chose qui a comme été plaqué, comme tu disais, c'est vraiment complètement naturel. Elle va s'appeler une drop-out de 4 ans quand elle va lâcher l'école, et ça m'avait bien fait rire de voir à quel point, justement, elle revoit sa propre histoire à travers son identité québécoise d'aujourd'hui. Et c'est ça. J'avais aussi, en fait, envie de parler de... J'ai complètement oublié, en fait.
C'est pas grave, je peux peut-être rebondir sur ce que, Olivier, tu as dit. La revendication, tu disais que tu en as peut-être plus ou moins vu par rapport à l'identité, mais moi, ce que j'ai vu comme revendication, c'est vraiment par rapport aux luttes sociales, à la justice sociale. Ça, j'ai trouvé que c'était un terme très important. Il y avait quasiment une forme de militantisme, je dirais presque. Par exemple, ses parents. C'est vraiment un grand hommage à ses parents qui ont de la misère à joindre les deux bouts, qui vont, par exemple, avoir une seule carte de transport en commun pour la famille parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer, puis ils vont habiter dans des logements petits, un peu misérables. Et tranquillement, on va avoir accès à, finalement, cette histoire qu'il nous a racontée de leur ascension sociale. Donc, petit peu par petit peu, ils vont avoir un appartement plus grand, plus spacieux, plus confortable. La bibliothèque elle-même va grandir et on va les suivre jusqu'à Brossard, finalement, où est-ce qu'ils vont être en banlieue, pardon, et qu'ils vont être confortables, finalement, bien, mais pour en arriver là, ils vont passer à travers beaucoup, beaucoup de misère. Ses parents sont payés au noir, font des tâches supplémentaires sans être payés, pas d'avantages sociaux, la précarité, travaillent des 12 heures par jour. Et Caroline Dawson va dire, je me suis rendu compte que mes parents ont fait un sacrifice, le sacrifice d'avoir de l'argent puis d'être confortable plutôt que de nous voir. Et c'est difficile de lire ça. Et elle dit une phrase absolument géniale qui me touche beaucoup. Elle me dit « Je me rangerai toujours du côté des humiliés. C'est là où je me taire. » Et Juliette, je pense que tu avais vu aussi ce propos de la revendication féministe.
Oui, en fait, complètement. Justement, c'est là que je voulais m'en venir. La revendication féministe, on la voit à travers toute la représentation de la condition féminine que la petite Caroline vit en allant à l'école. On voit déjà qu'elle intègre les codes sociaux, qu'elle en est consciente et que les autres fillettes aussi les comprennent, ces codes sociaux-là contradictoires qui sont imposés aux petites filles. Et ce qu'on voit aussi, en fait, ce qui est vraiment mis en lumière dans le roman, c'est à quel point le statut de la femme et le statut de femme racisée ou d'immigrante ou de réfugiée, tout ça, en fait, c'est deux statuts qui s'exacerbent. donc, c'est pas du tout deux affaires distinctes. Elle le dit, en fait, Dans le roman, je vais citer en fait, elle dit « Peut-être plus que les autres filles québécoises, je me faisais un devoir de jongler avec ces conventions pour performer cette idéalisation fantasmatique de l'identité féminine. » Donc, encore plus que les autres petites Québécoises blanches, que les petites Julie, comme elle dit, elle doit perfectionner sa performance de l'identité féminine pour pouvoir s'intégrer complètement. Donc, c'est quelque chose qui est très vrai. Donc, il y a aussi une revendication de rendre le féminisme intersectionnel, même si ce n'est pas crié ou dit noir sur blanc dans le texte, on le voit constamment.
À ce sujet, j'aimerais ajouter une petite nuance, justement, qui est présentée dans le roman « Là où je me taire », un peu plus loin, vers la fin, quand elle discute, justement, avec d'autres amis féministes de l'université, et là, elle va parler de sa grand-mère, et elle va dire de sa grand-mère que sa grand-mère ne pouvait pas être féministe parce qu'avant de pouvoir lutter pour la cause des femmes, elle devait lutter pour sa survie. Et ce passage-là, je l'ai trouvé super percutant. Parce que même si Là où je me taire, c'est une œuvre qui vient dans laquelle il y a une prédominance des voix féminines, elle remet en question. Ben, c'est pas une remise en question, c'est elle avance en fait que le féminisme ne va pas de soi. Donc le féminisme, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose de culturel, mais c'est surtout quelque chose aussi de nécessaire.
Oui, je suis vraiment d'accord. Et aussi, justement, c'est ça que je m'en allais vers là-bas aussi. Oui, c'est un roman que je considère personnellement un peu féministe. Ben, pas un peu. C'est un roman féministe. Mais c'est aussi un roman qui va aller critiquer le féminisme qu'on peut appeler blanc ou occidental, qui se considère universel, qui se considère qu'il va de soi, que ses enjeux situés dans le temps et dans l'espace peuvent s'appliquer à toutes les autres cultures, ce qui n'est pas vrai, bien entendu. Donc oui, c'est ça qui est démontré dans ce roman-là. C'est très nuancé comme approche envers la condition féminine et le féminisme.
Et Caroline Dawson, elle dit oui, il y a une libération de la femme au Québec. Oui, effectivement, puis elle reconnaît, mais elle dit en même temps, il y a l'aliénation et l'exploitation des immigrants, des immigrantes qui viennent ici, puis c'est un peu paradoxal et c'est frappant ce passage-là parce que tu dis, OK, oui, il y a peut-être une libération de la femme, mais libération de toutes les femmes? Et ça semble pas être le cas. Et je vais vous lire un passage qui m'a beaucoup touché. C'est à la page 102. Elle va dire ceci. « Parfois, les gens me demandent à quel moment je suis devenue politisée. Dans notre coin, la politique cognait à la porte de nos vies et cassait les fenêtres quand on ne regardait pas. Elle était là quand on perdait notre cache-cou et que c'était un peu un petit drame pour le budget familial. » Quand on croisait enfin nos voisins fantômes à l'épicerie le premier du mois, quand on donnait notre berlingot de lait le matin à notre ami dont la mère s'était fait slacker à l'une des usines qui fermait, quand on croisait les flics sur Sainte-Catherine qui arrêtaient les grands frères des filles du camp de jour devenus des petits pimps, mais qui laissaient les autres à terre, devenus junkies, chaque fois qu'on changeait de gouvernement et que mes parents n'avaient pas le droit de vote. Il n'y avait pas la vie d'un côté et la politique de l'autre. Il y avait les adultes et leurs règles et nous qui tentions de nous déployer dedans en sachant le monde injuste, le pouvoir malfamé et l'autorité louche. » Et donc, je lis ça et on dirait presque, pas un traité, mais... C'est une revendication qui, pour moi, est très forte. Et ce n'est pas que ça, le livre, il faut le dire aux auditeurs, auditrices, parce que c'est aussi plusieurs petites nouvelles littéraires, ou en tout cas, ce qui ressemble à des nouvelles littéraires. Les chapitres sont divisés, c'est ça, comme en petites histoires qu'elle nous raconte, son intimité, par exemple, quand ses parents l'amènent dans les banques où il travaille, il nettoie, et elle va fouiller, va trouver toutes sortes d'objets, va deviner la vie des gens qui travaillent là ou dans les maisons privées, les gens qui habitent là. Elle va fouiller encore une fois. Et c'est si beau, c'est si bien écrit, c'est si touchant. Et il y a un fil conducteur aussi à travers ça. Est-ce que l'un de vous veut peut-être raconter la rencontre avec Pierre Falardeau? C'est vers la fin du livre. Elle est rendue à l'Université de Montréal puis elle rencontre ce grand cinéaste-là dans le cadre d'une projection.
Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai vraiment vu ça comme une trahison. En fait, je trouve que c'est vraiment un thème qui revient souvent, la trahison dans Là où je me tais. Et ça, ici, on voit vraiment, moi, personnellement, en fait, ce que je vois dans cette anecdote-là de quand elle rencontre Pierre Falardeau, c'est une trahison du pays, en fait, ben, du Québec, de l'endroit où elle a tant essayé de s'intégrer, où elle a tant travaillé pour s'intégrer. Et finalement, on ne lui renvoie que du mépris. Donc, elle va rencontrer Pierre Falardeau et va lui raconter son anecdote intime et constituante du yogourt Liberté qu'elle avait vu dans le frigo de la famille qui l'hébergeait et qu'elle avait pris comme en défiance du monde dans lequel elle était pour que, justement goûter à la liberté. Et Pierre Falardeau va répondre quelque chose comme « Ah, c'est pathétique ton histoire. » Et ça, je pense vraiment que ça représente à quel point elle se sent trahie par le monde dans lequel elle a essayé de s'intégrer. C'est du moins ma perception un peu de ce moment-là.
Oui, tu parles de trahison, Juliette, et on a l'impression que Caroline s'est faite trahir finalement par le Québec, mais jusqu'à un certain point, se dessine en filigrane en fait une trahison qui lui serait propre. Elle a l'impression qu'elle se serait trahie elle-même, surtout quand elle a eu ses enfants avec son conjoint suédois, si je ne me trompe pas. Et
Oui.
donc, son conjoint suédois et ses enfants se considèrent. Bon, je veux dire moitié québécois, moitié suédois, et ils considèrent à peine leurs racines chiliennes, et elle va se mettre beaucoup de pression par rapport à cela en se disant que c'est un peu de sa faute parce que en arrivant au Québec, elle a décidé de placer sous l'égide de la honte la langue espagnole et tout finalement ce qui la rattachait à ses racines d'Amérique latine. Des fois, j'ai l'impression, en lisant le livre, que malgré toutes les trahisons québécoises qui l'entourent, celle qui serait peut-être la pire pour elle, finalement, c'est la trahison qu'elle se serait imposée à elle-même. Et c'est d'avoir en partie, juste en toute petite partie, renié finalement ses propres racines, renié d'où elle venait, comme si son passé de Chilienne et son présent de Québécois, finalement, ne pouvaient pas s'amalgamer, ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Et une partie du blâme revient aux cadres sociaux. Donc, le fait que, justement, elle n'a pas senti cette ouverture-là des Québécois de laisser place à sa culture, mais aussi le fait d'avoir un peu abandonné devant cette contrainte-là, puis d'avoir abandonné une partie de sa culture, finalement.
C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on voit dès le début, cette auto-assimilation qu'elle fait d'elle-même. C'est un peu un pléonasme ce que je viens de dire, mais oui, vraiment, on voit qu'elle se substitue sa propre culture à la culture québécoise. Il y a comme une trahison d'elle, de ses origines, de ses parents, même une trahison des origines de sa classe sociale quand elle réussit à grimper l'échelle sociale. On voit que quand elle va aller dans un party dans la maison d'un de ses voisins, un de ses amis, puis elle va réaliser que sa mère fait le ménage dans cette maison-là le lendemain, on voit que dans le fond, c'est comme si elle trahissait, voyons, je recommence. C'est comme si
Trahissait.
elle trahissait. C'est comme si elle trahissait ses origines, puis aussi la classe sociale dans laquelle elle est, puis dans laquelle elle a été en fait avant. Puis cette trahison-là aussi, c'est une trahison de l'auto-assimilation qu'elle fait aussi en tant que femme, qu'elle fait en tant que femme racisée. Donc c'est justement comme Caroline Dawson l'a dit dans une entrevue, nous sommes les actrices de notre propre domination et ça s'applique vraiment dans ce contexte-là aussi, on le voit vraiment dans le roman.
Oui, et même la distance culturelle entre ses parents et elle croît au fil du temps. Elle dit que le français devient peu à peu sa langue et se superpose à l'espagnol finalement. Et on sent que, étrangement, au sein même de cette famille-là, c'est ça, il y a un décalage culturel. Mais en même temps, ses parents sont un peu ravis ou semblent ravis de ça parce qu'ils se disent, comme te dit Juliette, nos enfants s'intègrent dans la société, montent l'échelle sociale. Donc, pour eux, pour les parents, c'est une réussite. Mais quel sacrifice des parents pour en venir à dire, justement, on veut absolument que nos enfants s'intègrent et s'il faut qu'il y ait une distance culturelle entre nos enfants et nous, on l'accepte. Et c'est quelque chose que je trouve très beau. Et je voulais peut-être vous lire un autre passage par rapport à la littérature francophone qu'elle va découvrir à l'âge de 11 ans. Elle est dans une classe de francisation depuis son arrivée. Elle progresse très vite. Et à 11 ans, c'est ça, elle va dans une bibliothèque et elle tombe sur le roman de Régent du Charme, La Vallée des Avalées. Et je vous lis un extrait, c'est d'une grande beauté. Ce livre a renversé tout mon rapport au français et de là à la littérature. C'était la première fois que je découvrais dans la langue un jeu, que j'entrevoyais la beauté d'un texte complexe sans saisir tout ce qui s'y trouvait. La poésie a pris un sens autre que celui si vertical des acrostiches scolaires. C'est là que j'ai réellement appris que l'on peut être blessé par ceux qu'on aime, que la solitude fait partie de l'amour et que l'enfance n'est pas l'âge de l'innocence. Je comprenais qui j'étais. La démesure était salvatrice, l'absolu devenait envoûtant, le chamboulement impératif. Je pourrais peut-être restaurer une partie de la petite Caroline pâlie à travers les mots. La violence semblait enfin banale et la tristesse n'était pas nécessairement opposée à la lumière. Et encore une fois, une partie très, très touchante. Et vous voyez un peu l'écriture, hein? Je m'adresse évidemment aux auditeurs et auditrices qui n'ont peut-être pas lu ce livre-là, mais c'est une écriture qui est très fine et ça se lit vraiment tout seul. Parlons peut-être un peu des références à la culture populaire. Le Bonhomme Carnaval, on a aussi Passepartout, hein, c'est son premier contact avec le français. C'est vraiment la première personne qui s'adresse à elle, si on peut dire. Là. C'est Passepartout, c'est les personnages de Passepartout. Olivier, est-ce que tu veux nous en parler peut-être même de... Oui, c'est ça, de cette culture populaire présente dans le livre.
Oui, bien, tantôt, Étienne, tu parlais justement que le livre était divisé en sortes de petits récits littéraires, de fragments, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces fragments porte un titre. Et ce titre est une référence à la culture québécoise. Donc, on a déjà nommé Passepartout, La liberté n'est pas une marque de yogourt. Il y a aussi la Cité Libre, donc cette revue qui... politisé, justement, la Révolution tranquille, tout ça. Donc, on sent dans ces titres, de fragments-là, que la culture populaire est omniprésente et cette culture-là populaire vient nous parler, en fait, en tant que lecteur. Et autre aspect de la culture populaire qui est vraiment mis de l'avant dans le roman de Caroline Dawson, c'est l'intégration à l'hiver. Donc, signe d'identité québécoise par excellence que, étrangement, des fois, en tant que Québécois, on peut avoir tendance à banaliser, à oublier, parce que, justement, ça fait partie de notre presque quotidien sur 8 mois sur 12 de l'année. Et un passage, justement, qui est frappant, c'est quand elle est jeune, elle est à l'école de francisation et on dirait qu'elle apprend à devenir québécoise en parlant de l'hiver et en se méritant une poignée de honeycomb à la fois, donc avec Madame Thérèse, cette enseignante, oui. Je trouvais l'image belle, ludique, tout ça. Donc on a une marque de céréales assez nord-américaine et on apprend à dire ski, même si on n'a jamais skié, on n'a jamais fait de ski alpin, mais on apprend à l'école à dire ski alpin comme si ça valait de soi, c'était nécessaire, c'est un mot du quotidien, finalement.
Oui, alors que Caroline Dawson n'en a même pas fait, tu sais. Elle ne sait même pas trop c'est quoi, finalement.
Exactement, exactement.
Oui. J'ai peut-être juste un bémol par rapport à ce livre-là, puis j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez aussi. J'ai trouvé très étrange le fait que ces deux frères, Nicolas, qui est 4, 5, 6, 7, il a 3 ans plus jeune, et son grand frère, Jim, de 7 ans, son aîné, ces deux frères-là sont très peu présents dans le livre. Et surtout quand elle grandit, tu sais, elle est adolescente, elle passe son adolescence, son âge adulte ici au Québec, évidemment. On les voit peu, ces personnages-là. On parle beaucoup de ses parents, de son père, de sa mère surtout. mes petits frères. Et on dirait que j'aurais voulu en savoir plus sur eux. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'ils deviennent. Et on les perd un peu de vue. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense que ça aurait été certes intéressant d'en entendre un petit peu parler, mais en même temps, comme Caroline Dawson le dit en entrevue, elle a porté une attention particulière aux voix féminines, en fait. Donc, c'était les voix féminines surtout qui l'intéressaient de son passé. Et sous cet angle-là, je crois que c'est tout à fait normal et légitime d'un peu éclipser les frères parce qu'ils ne partagent pas exactement. Oui, ce sont des enfants immigrés qui ont dû s'adapter comme elle à la réalité québécoise, mais elle parle surtout de s'adapter à la réalité québécoise en tant que femme, et c'est quand même quelque chose qui, en quelque sorte, ne concerne pas ses frères. Donc, je ne crois pas que ce soit un bémol du tout que ses frères ne soient pas présents, même si, en tant qu'électeur, on aurait bien aimé en entendre parler aussi, avoir un point de vue supplémentaire.
Intéressant.
Je suis complètement d'accord avec Olivier. En fait, j'avais pas perçu ça de cette manière-là, mais maintenant qu'il en parle, je suis d'accord. Puis, en fait, c'est aussi un récit de soi. Donc, quand on entend parler de ses frères, c'est vraiment en rapport avec son expérience et son intégration. Oui. Donc, par exemple, quand elle écoute la télévision avec son petit frère, quand on apprend que son frère est rendu au cégep, etc. Donc, c'est vraiment seulement quand ses frères prennent une ont de la pertinence dans son récit d'intégration, dans son récit aussi, justement, d'être femme d'être une femme, en fait, justement, qui doit s'intégrer dans le Québec. Eh bien, je pense que c'est seulement dans ces moments-là que ses frères prennent de l'importance dans le récit, et c'est pour ça qu'on les voit seulement à quelques moments, dans quelques anecdotes, et ça ne m'a pas plus dérangée que ça, honnêtement, surtout depuis qu'Olivier a justement mis en lumière le caractère féminin un peu du roman, cette perspective-là qui est importante et qu'on veut entendre aussi.
Je peux dire, là, c'est vraiment, moi, mon seul bémol, puis ça me... Ce que vous dites me fait réfléchir même à ma propre opinion, parce que au fond, là où je me terre, là, c'est rare que j'ai des commentaires aussi dithyrambiques, mais c'est vraiment un roman que je recommande chaudement aux auditeurs et auditrices. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Personnellement, moi, ça a été mon coup de cœur de lecture de cette année. Il a terminé deuxième au combat des livres, au combat national des livres à Radio-Canada. Et vraiment, juste derrière Koukoum, d'ailleurs, qu'on salue, n'est-ce pas, Michel Jean. Vraiment, Là où je me terre mérite d'être lu, selon moi. Est-ce que vous avez la même impression que moi?
Oui, je partage entièrement ton impression. Moi-même, quand je l'ai lu, ben, tu en parlais un peu tantôt, Étienne, les mots glissent les uns sur les autres, donc on est emporté dans cette lecture-là. Ça se lit d'un seul coup, vraiment.
Je suis entièrement d'accord aussi. Justement, l'écriture, le style d'écriture est très frappant, mais en même temps, il est très beau, c'est tellement bien dit. Les formulations sont incroyables. Il y a plein de phrases, de citations que j'aurais envie de garder avec moi en tout temps, tellement c'est magnifique. Donc, et le récit en tant que tel, bien entendu, aussi. Donc oui, moi aussi, je le recommanderais, c'est certain.
Oui, une écriture à la fois personnelle, et comme tu disais tantôt, Olivier, qui emprunte à l'oralité et aussi à la littérature, le ton littéraire. Et pourtant, ça colle très bien. Il n'y a pas de rupture de ton. En tout cas, pour moi, je n'ai pas perçu du tout de rupture de ton. Ça coule et on lit ça comme un vrai charme. Merci beaucoup, Olivier Hamel et Juliette Chevalier, de vous être joints à moi pour cette discussion autour de Caroline Dawson et son roman autobiographique « Là où je me terre ». C'est paru en 2020. Aux éditions du Remue-Ménage. Merci encore d'être venu et on se retrouve très bientôt. Et aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent, je vous invite à nous écouter, vous abonner, bien sûr, à notre chaîne Spotify et SoundCloud. Merci et au revoir à bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir.